Bonjour à tous, chers auditeurs d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et nous accompagne dans l'art de faire le meilleur du temps qui passe. Chantal Doré au micro, qui espère faire le meilleur de cette heure que nous partageons ensemble. Merci d'ailleurs d'être à l'antenne depuis déjà 40 émissions que nous partageons une heure ensemble. En première partie d'Au fil du temps cette semaine, je discute des nouveaux pères avec Valérie Harvé, sociologue que nous avons eu le plaisir de recevoir plusieurs fois comme chroniqueuse à Au fil du temps. Valérie a lancé il y a quelques semaines « Révolution papa, comment les pères québécois transforment la paternité » aux éditions Québec-Amérique. J'en profite pour saluer mon papa qui est à l'écoute de l'émission. Il est 6 fois papa et ce, de multiples générations car il y a 20 ans entre la première fille, soit moi, et la dernière. Donc, possiblement qu'il trouvera plaisir à écouter Valérie parler de l'évolution du rôle des pères à travers les générations. Valérie saura discuter avec nous des différents archétypes du père, le père absent, le père de peu de mots, le pourvoyeur, jusqu'au papa très impliqué dans l'éducation quotidienne de ses enfants. En deuxième partie d'Au fil du temps, nous recevons de nouveau Caroline Lalande de Mosaïque, cabinet de services financiers, pour parler d'un incontournable de la vie à part la mort, ouais, les impôts. Avril approche et cette responsabilité financière qui nous incombe tous également. Nous verrons comment optimiser ces fameux impôts, peu importe la génération à laquelle nous appartenons. Et en terminant, je présenterai une étude de chercheurs en psychologie sur les 5 composantes de la sagesse. Voilà le menu de cette 40e émission. Avant de recevoir Valérie Harvé pour nous parler de son livre « Révolution papa », écoutons « Papa outé » de Stromae.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans
sans même devoir lui parler. C'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
C'était Papa Outé de Stromae, qui est cité dans le livre de Valérie Harvey, sociologue et autrice de Révolution Papa, comment les pères québécois transforment la masculinité, publié chez Québec Amérique. Alors, si vous êtes un ou une fidèle de l'émission, vous connaissez la pétillante Valérie qui nous a fait le bonheur d'être avec nous pour quelques chroniques et on la reçoit cette semaine à Au fil du temps pour parler de ce livre qui est l'aboutissement de sa thèse de doctorat sur les pères québécois et les congés parentaux. Bonjour Valérie!
Bonjour Chantal, félicitations pour la 40e!
Oui, merci! Hey Valérie, c'est tout un livre intéressant que j'ai lu là. Je n'étais pas étonnée parce que jusqu'à présent, vous nous avez ravis de bonnes idées, de réflexions très songées.
Effectivement, je me suis bien amusée à écrire ça pendant la pandémie.
Ah oui, OK, c'est un livre de pandémie.
C'est un livre de pandémie, oui. Je pensais après la fin de ma thèse que ça ne tentait pas de tout réécrire parce qu'une thèse, quand ça fait 7 ans qu'on est là-dessus, ouais. On se dit bon, ben, je pense que j'ai passé assez de temps à parler des pères, je vais essayer de faire. Mais finalement, j'ai eu le goût, puis je me suis mis donc devant mon ordinateur parce que on ne peut pas publier une thèse telle quelle. En tout cas, ouais. Ce ne serait pas faire un grand cadeau, je pense, aux auditeurs. C'est pas toujours facile à lire. Et c'est pour ça que j'ai complètement réécrit autre chose. Et je dirais que la réflexion qu'il y a eu pendant mes deux années, parce que bon, j'ai déposé ma thèse il y a déjà 2 ans, donc ça m'a permis d'avancer aussi encore, hein, parce qu'on n'a jamais fini de réfléchir à un sujet qu'on a étudié et qu'on a beaucoup aimé. Donc, c'est le résultat de ces réflexions-là en 2021, oui.
Mais c'est un bel exercice de vulgarisation. Et je me disais justement, en temps de pandémie, il y a plusieurs papas qui probablement là ont passé encore plus de temps qu'avant avec leurs enfants. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs pères qui ont eu des réflexions sur le rôle en tant que papa. Et je débutais l'émission en parlant de mon propre papa qui est devenu papa une première fois. Et la 6e fois qu'il est devenu papa, il y avait eu un écart de 20 ans. Alors, j'avais envie de prendre cet exemple-là pour dire, en 20 ans, comment le rôle des pères a évolué et même son recul, évidemment, plus loin dans l'histoire?
Mais ça, c'est fantastique parce que ton papa, c'est un bon témoin pour parler de tout ce qui a changé, de tout ce qui a été transformé dans le rôle des papas. Tu sais, dans les années 50, les années 60, on avait beaucoup la division des rôles, puis c'était réparti. Ben maman s'occupait de l'intérieur de la maison, s'occupait beaucoup des émotions aussi. Tu sais, c'était elle qui collait ses enfants, c'était elle qui discutait avec eux, c'était elle qui était présente pour tout ce qui allait pas bien. C'est maman qui veillait à ça. Et le père, lui, ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il amène la sécurité à la famille, qui était un grand rôle aussi, là, mais c'était le gagne-pain. C'était lui qui était la sécurité financière. Puis, il n'y avait pas, à part la discipline, il n'y avait pas nécessairement de rôle émotif, ce qui a été difficile pour plusieurs des papas qui ont vécu cette époque-là, puis qui auraient aimé avoir un petit peu le droit de coller aussi, parce qu'on ne développe pas nécessairement notre habilité quand on ne commence pas en bas âge. Là. Donc, c'est une des choses qui était marquante. Puis même si on recule avant ça, il y avait les papas qui partaient comme bûcherons, là, tu sais. Il y a eu ça pendant un grand bout de temps. Au Québec, on l'a beaucoup expérimenté. Dans d'autres pays, c'était pour d'autres métiers, mais c'était pas du flying, fly out. On n'avait pas d'avion là, qui nous ramenait au travail après, à la maison. C'était vraiment, on partait pour plusieurs mois. Puis ça aussi, ça a contribué au fait que c'est la mère qui avait un peu toute qui connaissait les enfants, qui connaissait leurs besoins, leur personnalité, leur émotivité, qui était capable de trouver les mots, de trouver, qui devait même gérer la discipline pendant le départ. Donc, on a eu beaucoup de papas, je les ai appelés des papas de peu de mots. Donc, c'est les pères qui étaient capables de montrer qu'ils aimaient pareil, là. C'était pas ça la question, mais c'est juste qu'ils te le montraient par des petits gestes. C'était pas toujours évident, il y avait un certain malaise, il y avait pas nécessairement là, autant d'habilité que la mère de ce point de vue-là. Donc ça c'est vraiment une des choses que je pense que plusieurs d'entre nous ont connu d'une façon ou d'une autre. Moi, je l'ai connu à travers mes grands-parents, mes grands-pères plus précisément, mais c'est clair que ça a été beaucoup présent au Québec. Il y en a encore aussi que c'est comme ça qu'ils sont pères aujourd'hui, là. Et moi, je veux pas, t'sais, je veux pas diminuer qu'est-ce que ça a pu être. T'sais, il y a de l'amour derrière ça aussi.
Absolument, c'est une forme d'amour qui est différente. Mais je prends comme anecdote mon beau-frère Stéphane et ami. Quand son papa était vivant, et il me dit, je lui parlais à tous les jours, mais pour dire absolument rien. C'était vraiment comme, as-tu changé tes pneus d'hiver? Puis les Canadiens, est-ce qu'ils vont gagner cette année? Et il dit, on se disait absolument rien. Et plusieurs fois, il a essayé d'avoir des conversations avec lui. Il me racontait l'anecdote où il était allé au cinéma où il y avait une discussion sur le rôle du père. Et en sortant du film, son père lui a dit, « Ouais, ils sont beaux tes mags sur ton char. » mais c'était un temps passé ensemble, donc peu de mots, mais quand même une présence.
Exact, puis c'était important aussi. Mais il y a des enfants qui ont souffert de jamais avoir entendu leur père leur dire « je t'aime ». Mm-hmm. Tu sais, c'était pas nécessairement facile, ni d'un bord, ni de l'autre, cette époque-là, parce que t'avais même pas le droit de faire ça. C'était pas masculin de coller tes enfants. C'était même pas masculin de pousser une poussette, là. Aussi étrange que ça peut nous paraître aujourd'hui, mais c'était mal vu, donc c'était pas un choix. Les pères qui voulaient pas agir comme ça avaient pas beaucoup de place. Mais ça s'est mis à changer quand le féminisme est arrivé. Parce que d'une certaine manière, dans les années 70, les femmes ont dit, ben écoute, nous autres, on veut rentrer sur le marché du travail. Ouais. On voudrait avoir une place. On est égales. On la revendique, cette place. Puis, à ce moment-là, à la maison, ben il y a eu, les mères partaient au travail. Donc, il y avait un rôle qui devait être assumé un peu plus par le père. Et il y a eu beaucoup de divorces à la fin des années 70. J'en parle dans mon livre, puis j'appelle les années 80 comme... des années qui ont été vraiment marquantes sans qu'on s'en rende compte, parce que ça a été des années difficiles économiquement.
Oui.
Et difficile économiquement, ça a voulu dire qu'il y a eu plusieurs périodes où l'un ou l'autre des parents était à la maison en recherche d'emploi. Et ça, il y a un psychanalyste qui disait, ça a été, on a dit, la génération perdue. Mais ça, c'est quand on regarde les emplois. Parce que si on regarde au niveau de leur vie intime, leur vie familiale, ces pères-là ont pu s'investir parfois comme jamais. Et aussi, comme il y avait plus de divorces à cette époque-là, il y a eu plus de séparations, on a vu qu'il y a eu beaucoup de pères qui se sont ramassés avec la garde une fin de semaine sur deux.
C'était alors que c'était clair qu'avant, c'est la mère qui avait la garde là, dans les premiers temps.
Ah non, ça c'était le père qui gardait la garde. Parce que c'était quand il y avait une séparation avant les années 1978, l'autorité qui gardait les enfants, c'était le père. Donc si la mère ne se séparait pas, de toute façon, ça ne se passait pas.
Non, c'est ça.
Pas, là, c'est ça. Mais après, quand on a eu l'autorité parentale, effectivement, c'est la mère qui avait les enfants. Et là, le père avait une fin de semaine sur deux. C'était comme ça qu'on séparait ça. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'on a beaucoup moqué les pères de cette époque-là. On dit, ils amenaient au McDo, hein, tu sais.
Oui. Vous avez une section là-dessus, hein, les pères McDo.
Oui, je les appelle comme ça parce que c'est le mot que les pères d'aujourd'hui ont employé. Puis ils m'ont dit, moi, les pères que j'ai rencontrés, ben écoute, moi, ça a été mon premier lien seul à seul avec mon père. Pendant une fin de semaine, il n'y avait pas le choix, il s'occupait de nous autres. Puis je me suis rendu compte que le père, c'était capable de s'occuper de ses enfants. Une fin de semaine sur deux, oui, mais il était tout seul. Il n'y avait pas rien, il n'y avait pas d'helper, là. Fait que ces pères-là, les pères d'aujourd'hui, soit ils ne veulent pas faire comme leur père, hein, ils veulent être plus présents, soit ils ont eu un exemple, puis ils font juste continuer sur cette lancée-là en étant encore plus présents que leurs parents. Puis aujourd'hui, au Québec, on ne le sait pas, là, mais on est la province que s'il y a une séparation, c'est pas tous les couples qui se divorcent, là.
Heureusement.
C'est ça. Mais s'il y en a une, c'est plus la garde qui est la plus répandue ici au Québec. On est la seule province où c'est comme ça. C'est plus moitié-moitié quand c'est possible. Donc, c'est vraiment une semaine, une semaine.
Donc on voit vraiment un écart là, avec les autres provinces canadiennes?
Oh, c'est immense.
Ah oui?
C'est immense au point de vue des séparations. C'est immense aussi au point de vue des congés parentaux. Puis ça, mon livre est tout tourné là-dessus
Oui.
parce que le congé de paternité, il existe seulement au Québec. En Amérique du Nord, il n'y a aucune autre place où il existe un congé de paternité.
On est très
Et il y a en
progressiste
plus,
à cet
ouais.
égard.
Oh, vraiment, à part les pays nordiques, là, il n'y en a pas d'autres qui ont des congés de paternité aussi longs que le nôtre. Donc, 5 semaines, c'est très, très long. Ce qui existe ailleurs au Canada, c'est un congé pour un parent qui peut faire 2 semaines, donc pour le conjoint, mais c'est sur l'assurance emploi. Puis, le monde appelle ça être juste chômage pendant 2 semaines. Il y a mieux pas. Tu sais, ça paraît mal, fait que c'est très peu utilisé. Et en plus, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, les pères canadiens, là, pas du tout, parce qu'ils peuvent le prendre, par exemple, en vacances.
Ouais.
Mais ça reste que
C'est plus
ici, on a vraiment
formalisé,
ce
c'est
souci.
formalisé.
Oui, exactement. On a le souci de dire au papa, écoutez, si vous voulez prendre 5 semaines, il vous est réservé. Si vous ne le prenez pas, vous allez le perdre. Mais c'est bien beau de mettre une politique publique, mais ça aurait pu pas marcher. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça a tellement marché que ça a surpris le gouvernement. Ils se sont ramassés avec un petit trou les premières années, parce qu'ils n'avaient pas prévu que la participation des pères allait bondir. Il y en avait à peu près, si je ne me trompe pas, c'était 20 % qui prenaient 2 semaines avec l'assurance chômage avant. Et quand ils ont mis le congé en 2006, c'est monté à 76 % d'un coup.
Wow. Est-ce qu'on a vu plus d'ouverture aussi des employeurs
Les
à ce que les
employeurs ont
papas
suivi,
aussi prennent,
oui.
oui?
C'était un peu ma question pour justement ma recherche. Est-ce que vos employeurs ont mal réagi? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on prend 5 semaines, je dis si on prend seulement 5 semaines, ouais, ça se passe très bien. La majorité des employeurs voient ça comme tout à fait normal. C'est des vacances spéciales dans ton année. Bon, vacances, c'est un grand mot, là, mais
En
ça reste
effet.
que, ouais, c'est géré comme des vacances spéciales dans une année. C'est au niveau des pères qui veulent prendre plus longtemps. Que là, il y a encore un travail à faire parce que c'est beaucoup plus compliqué pour le papa qui veut prendre une partie des semaines parentales ou toutes les semaines parentales, c'est-à-dire les 32 semaines qui sont au choix des parents. Il y a très peu de pères qui le prennent, mais ce très peu de pères-là qui le prennent peuvent le payer cher, là, au niveau des reproches qu'on va leur donner ou pourquoi tu prends ça. Il y a une surprise parce que c'est souvent le premier à le faire dans la compagnie.
Valérie, on va aller en musique, on va poursuivre tout de suite après. Et j'ai mis la main sur une pièce qui me touche. En fait, c'est une pièce écrite à une autre génération, mais reprise par quelqu'un de notre génération. C'est une pièce d'Yvon Deschamps, Papa, chantée par Vincent Vallière.
Deux petites syllabes, un mot usé, et te voilà réinventé. Tu te sens tout à coup comme un roi, parce qu'un petit bout t'appelle papa. Pourtant, c'est un mot simple à dire, un mot qui peut vous faire sourire. Oui, mais quand c'est à toi, qu'on le dit, t'as comme envie de dire merci. C'est un de tes plus grands jours, tu viens au monde à ton tour, quand ton petit bout t'appelle papa. Tu comprends enfin pourquoi te voilà rempli de joie, c'est un recommencement. Tu viens de naître et pour longtemps, t'as eu la vie de ton enfant. Quand ton petit bout t'appelle papa. Thank you. C'est un de tes plus grands jours, tu viens au monde à ton tour. Quand ton petit bout t'appelle papa, tu comprends enfin pourquoi, te voilà rempli de joie. C'est un recommencement. Quand ton petit bout t'appelle papa.
C'était « Papa » d'Yvon Deschamps, chanté par Vincent Vallière. C'est joli, Valérie, hein?
C'est magnifique. Ça fait aussi partie des citations que j'ai à chaque début de chapitre. Oui. Moi, j'ai fait une grosse recherche là, de qui parlait des papas partout. Puis là, je cite des BD, des chansons. J'ai même un bout du spectacle de Louis-José Houd.
J'ai vu ça, puis vous m'avez inspirée avec Papa Outé. Et déjà, Maurice nous avait suggéré la pièce. Et quand j'ai vu les paroles d'Yvon Deschamps, juste le fait de tomber ensuite sur cette version de Vincent Vallière, c'était clair qu'on la ferait jouer à Au fil du temps. Valérie, juste avant la pause, on parlait un peu de l'évolution des congés parentaux, le congé de paternité, en fait, le fait que le père le prend davantage. Et je suis curieuse, d'après votre boule de cristal de sociologue et les entrevues que vous avez menées pour votre thèse, comment vous pensez que les congés parentaux vont évoluer dans les prochaines générations?
C'est intéressant parce que un des problèmes que je pointe, c'est que les pères que j'ai rencontrés, quand c'était le temps de discuter justement du fameux congé de paternité, ils n'avaient pas de misère à prendre leurs 5 semaines. Ouais. Ils le voyaient vraiment comme un congé qui était dédié à eux, hein, puis qui leur était réservé ce 5 semaines-là. Mais quand c'était pour le congé parental, tantôt j'ai dit que c'était difficile avec l'employeur, c'était aussi très délicat avec la conjointe. C'est-à-dire que la plupart des pères qui avaient pris plus longtemps, qui avaient pris 20 semaines ou un mois après, c'était vraiment une négociation qui n'en était pas une. C'est-à-dire qu'il employait les mots « elle m'a permis de ».
Oui.
« Elle était gentille avec moi ». Elle me l'a proposé. Donc, c'est pas, ils ne se voyaient pas comme la personne légitime pour prendre ce congé-là. Ce n'était pas eux autres qui étaient sur le haut de la liste. Il était là en deuxième si la première personne ne pouvait pas ou ne voulait pas le prendre.
Mais d'ailleurs, il y a une expression que vous donnez, « mother gatekeeping ».
Oui, ça, c'est une expression que j'aime pas. Hein, parce que ça nous parle à nous, les mères, comme si c'était nous qui étions en train d'enfermer les pères puis les empêcher de prendre le congé, ce qui n'est pas tout à fait... il n'y a pas de culpabilité dans le sens. Oui, c'est plus subtil. C'est ce que je tente d'expliquer. C'est dans le sens que, oui, c'est vrai que les mères ne sont pas très ouvertes souvent à discuter même du congé parental. Mais c'est que, je parlais avec un professeur quand j'étudiais en Islande. Mm-hmm. Il est spécialiste des congés parentaux. Là-bas, en Islande, c'est 3 mois qui est réservé au papa. Puis il me disait, j'ai dit, oui, mais pourquoi le monde ne prenne pas plus de congés parentaux? Tu sais, pourquoi les pères, c'est pas divisé plus, un petit peu plus égal? Mm-hmm. Puis il me disait, ouais, mais attends, là, c'est pas la même image qu'on a d'une mère qui prend pas tout le congé, du père qui en prend tout le temps. C'est-à-dire que le père, lui, il se compare toujours avec son père puis son grand-père. Mm-hmm. Fait que c'est assez flatteur s'il décide qu'il prend 30 semaines. Hein? Il y a vraiment déjà l'image d'un père très investi auprès de ses enfants, impliqué, bon, etc. La mère, elle, son image d'une femme qui va prendre juste son congé de maternité, c'est-à-dire 18 semaines, puis qui retourne au travail après 3 mois et demi, ça a l'air de quoi? Hein, elle se compare avec sa mère et sa grand-mère. Elle n'aura pas la même image du tout. C'est beaucoup moins positif pour la mère. Et ça, ça joue énormément dans ce qu'on porte quand on va faire des choix. Mm-hmm. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup l'expression qu'on ferme la porte, là, parce qu'on n'est pas tellement responsable de ça. Il y a aussi de quoi... qui pèse là, comme société sur nos épaules en tant que femme. Et je l'ai moi-même ressenti parce que quand mon chum, il voyait bien que j'étais hésitante à arrêter d'étudier pendant un an pour m'occuper d'un bébé. Et il m'avait dit, moi, je peux le prendre, ça va me faire plaisir. Puis j'étais super contente qu'il m'ouvre la porte. Puis en même temps, ma deuxième pensée, ça a été, ouais, mais je vais-tu être une mauvaise mère parce que j'ai pas passé un an seule avec mon bébé.
Oui, on a peur du jugement à ce moment-là, ou d'être perçu comme carriériste ou trop carriériste.
Mais oui, c'est ça, on n'a pas ce droit-là, nous autres, il faut qu'on soit des superwomen qui réussissons dans tout, c'est-à-dire que oui, on peut réussir à tout continuer, même s'il y a un bébé, puis qu'on en soit 24 heures sur 24. Bon, la réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est bien d'être deux partenaires quand on s'occupe d'un enfant, parce que ça donne confiance en tout le monde, puis ça, j'essaie justement de le pointer là-dedans, c'est positif pour tout le monde, c'est positif pour la maman, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas toute seule à être capable d'en prendre soin. On gagne une confiance quand il y en a un autre qui en prend soin aussi. C'est positif pour le bébé, on le sait. Ça aussi, maintenant, on sait que ceux qui vont avoir deux parents qui sont très investis auprès d'eux, on ne parle pas de 15 personnes investies, là, c'est sûr qu'un enfant ne
Non,
développe
on
pas
parle
des
pas
liens
d'un
aux quatre.
village comme le veut l'expression.
Il y en a un aussi, un village, mais
Ouais.
ça prend du temps. Puis ce village-là,
Exact.
justement, là, ce début d'apprentissage, de développer des liens proches, affectueux avec des gens, ça part du
Ouais.
début, ça part d'avec tes parents, de ce sentiment de sécurité-là que tu vas développer avec deux personnes. Donc, ça peut être grand-maman puis maman aussi, là, pour les mères monoparentales, il n'y a pas à s'inquiéter, les pères monoparentales aussi, mais c'est important d'avoir un lien d'attachement qui ne sera pas unique à une seule personne, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le village, là, il va devenir difficile à se lier. Donc, ça s'agrandit graduellement dans la tête d'un petit enfant, puis ça, c'est bon pour lui par la suite.
Vous
Puis c'est
parlez.
bon aussi pour le papa, hein? Ça facilite sa vie aussi, parce qu'il devient capable de discuter avec ses enfants, il gagne confiance en ses capacités, donc ce congé-là est très, très bon pour lui, et il reste investi après dans les soins aux enfants. Puis ça, là, ça, c'est bien important pour
Ouais.
la suite, pour tout le monde.
Absolument. Mais vous dites justement que c'est un partage de la fameuse charge mentale qu'on associe souvent aux femmes, mais que là, on essaie de se répartir ça, mais il y a encore certains enjeux au niveau de la charge mentale, devoir penser à tout ce qu'il y a à faire.
Ben, il y a un partage parce que c'est certain qu'il y a une réalisation que même si ça s'appelle un congé, c'est pas relaxant. J'ai un des pères qui m'a dit dans l'entrevue, puis je trouve que c'est ma citation préférée, je la dis souvent parce que je l'aime, là. Il m'a dit, ah oui, il dit avant, il dit, je serais revenue du travail, puis ma blonde aurait été sur le divan, puis je me serais dit, coudonc, elle est
Ah
déprimée.
ouais.
Puis là, maintenant, je reviens du travail, puis à ce temps que j'ai pris le congé, je me dis, oh, ah, c'est même pas habillée, t'es encore en pyjama, mon Dieu, que la journée a dû être dure.
Ouais, il y
Donc
a une
là, lui, ça a
compréhension
complètement
là.
changé sa vision. Mais c'est juste qu'il faut travailler encore sur le partage des tâches domestiques. Ça reste la partie charge mentale qui n'est pas réglée du tout, du tout, du tout.
Absolument. Valérie, un grand merci d'avoir été au fil du temps pour votre livre Révolution Papa, comment les pères québécois transforment la masculinité aux éditions Québec-Amérique. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation. Bye-bye.
À bientôt.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Si vous avez apprécié cette entrevue avec Valérie Harvey, je vous invite à venir voir l'ensemble de nos entrevues et chroniques sur canalem.vuesetvoix.com parce que nous avons reçu Valérie à plusieurs reprises comme chroniqueuse et vraiment, c'est toujours très intéressant de l'entendre. Également, nous sommes à CKVL le jeudi midi et vous retrouvez également nos différentes émissions, les 40 dernières émissions, sur Spotify, Google Play Music et Apple Balado.
Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude. la nuit. Dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. Akashiki. Tout le monde rêve à l'amour, chacun a son histoire de cul. Et quand revient le jour, tout le monde reste déçu. Tout le monde fait son petit numéro et danse dans son coin. Tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. À Cash City, tout le monde veut être quelqu'un car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Tout le monde veut que tout le monde l'aime mais personne n'aime tout le monde. Parfois on sort à Cache City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude, de l'altitude. À Cache City, dans une ville qui n'est belle que la nuit. Dans les yeux qui subit, tout le monde danse avec sa solitude.
C'était Cache City de Luc de La Rochelière. Oui, car nous parlerons de cash, d'argent en bon français, alors que nous entamons la saison des impôts. Pour en discuter, nous retrouvons Caroline Lalande de Mosaïque Cabinet de services financiers, avec qui nous avons discuté déjà à quelques reprises. Bonjour Caroline.
Bonjour Chantal.
Alors, cette fameuse saison des impôts qui doit vous tenir bien occupée.
Ah oui, en effet. C'est une saison particulière.
On a discuté, vous et moi, un peu avant pour préparer cette émission de comment, durant la saison des impôts, c'est souvent un révélateur de nos finances et de certaines décisions qui éclairent notre vie. Et j'ai envie de les enchaîner un petit peu, ces réflexions-là. La première, c'est par exemple, imaginons, Monique, qui se rend compte en faisant ses impôts que le fait de travailler à temps partiel ou quelques heures par semaine fait en sorte de la pénaliser fiscalement.
Oui, en fait, si on prend Monique, Monique peut-être est habituée à certains revenus, elle avait ses revenus de pension, elle avait sa sécurité de la vieillesse, qui est la pension du Canada, qu'on appelle la PSV. Et sa pension au régime des rentes du Québec et décide pour pouvoir arrondir ses fins de mois ou peut-être par ennui de travailler à temps partiel. Donc, évidemment, la saison des impôts, c'est un moment des fois où on a des mauvaises surprises ou des bonnes. Mais quand le comptable nous appelle et nous dit « Madame Monique, vous devez payer tant d'argent » et elle n'avait pas prévu cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que On est perdant quand notre taux d'imposition devient plus grand que, par exemple, ce qu'on avait avant d'être retraité. Donc ça, il faut faire attention. Dans un cas, par exemple, comme Monique, si elle est habituée à un certain revenu, et puis là, en travaillant, les gains sont plus grands, elle n'est pas habituée à payer autant d'impôts. Mm-hmm. Aussi, c'est que tous ces revenus-là ne se parlent pas nécessairement. Donc, par exemple, notre employeur ne sait pas qu'on a d'autres revenus ailleurs et donc qu'on devrait être imposé de façon plus élevée. Donc, c'est ce qui peut arriver, entre autres. Un exemple, la pension au niveau du Canada, la PSV, elle est imposable, mais il n'y a aucune retenue à la source.
D'accord.
Ce qui veut dire que le gouvernement ne retient rien en votre nom pour payer vos impôts.
Faut le prévoir.
Exact. On peut le demander de le faire, mais il faut le demander. Donc, dans un cas comme ça, c'est de bien comprendre. L'idée, c'est que si vous avez une mauvaise surprise une année au niveau fiscal, c'est de vous asseoir avec votre comptable, de comprendre ce qui s'est passé et de pallier pour l'avenir. Une bonne idée aussi, c'est de faire du bénévolat.
Et Dieu sait que les occasions ne manquent pas. D'ailleurs, ici, à Canalem, il y a plusieurs bénévoles et à Vue et Voix, où on produit des livres audio. Beaucoup de bénévoles sont très actifs et on les remercie de tout cœur.
Oui, c'est important le bénévolat, puis c'est pour ça que des fois avec certaines personnes que je rencontre, on considère aussi parce que certaines fois on retourne sur le marché du travail parce qu'on a le goût de voir des gens, de bouger, mais le bénévolat, c'est une option à considérer.
Ben effectivement, on veut pas être pénalisé. Si on est pénalisé fiscalement parce qu'on voulait voir des gens, ben là, c'est un autre enjeu. Imaginons maintenant que nous ne sommes pas à la retraite, mais qu'on arrive près de la retraite. Donc, quelles seraient les stratégies fiscales gagnantes?
Oui, bien, la première chose très importante, c'est de planifier. Mm-hmm. Généralement, on essaie de faire une planification de retraite 2 à 5 ans avant de tomber à la retraite pour pouvoir mettre en place certaines choses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une fois qu'on est à la retraite, on doit avoir un suivi vraiment périodique. Généralement, je considère 2 fois par année, c'est optimal. Donc, certaines choses qu'on peut faire en prévision de la retraite, cotiser au maximum à son REER. Donc, aller chercher le maximum de cotisations possibles si on est capable, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si je cotise à mon REER cette année, je n'ai pas l'obligation de le mettre dans mes impôts cette année. Mm-hmm. Donc, je peux reporter la déduction fiscale, ce qui pourrait être avantageux. Il y a certains fonds aussi, comme les fonds de travailleurs FTQ, CSN, qui offrent en fait une bonification supplémentaire sur le crédit d'impôt. Donc ça, en fin de carrière, c'est particulièrement avantageux. Ce sont des fonds qui peuvent être restrictifs au niveau des retraits. C'est pour ça qu'en début de carrière, quand on a 20 ans, 30 ans, c'est autre chose. Mais en fin de carrière, là, je vous conseille vraiment de regarder de ce côté-là. Certaines personnes, dans le fond, peuvent utiliser aussi le REER de conjoint. Je donne un exemple. Si monsieur a 71 ans, lui doit absolument transférer ses REER en fer, c'est la loi. Par contre, s'il est encore sur le marché du travail, il pourrait cotiser au nom de madame qui est plus jeune. Elle doit être plus jeune que 71 ans, bien entendu. Donc, il aurait la déduction d'impôt et puis madame, elle, peut accumuler REER conjoint. Quand on est à l'aube de la retraite, ben on essaie aussi de contribuer à son CELI parce que moi, je dis toujours qu'une bonne planification de retraite, c'est une combinaison des deux. Hein. Donc, on parle de REER, CELI. Donc, c'est de diversifier les différents types de placements qu'on peut avoir qui vont nous permettre d'avoir une bien meilleure flexibilité. Une des choses qu'on parle pas souvent, c'est la possibilité de reporter notre pension du Canada, donc la PSV, et notre pension de la RRQ.
D'accord.
C'est tout nouveau, mais tout nouveau. Ça fait quand même quelques années, mais ça fait pas 10 ans qu'on a cette option-là. Mm-hmm. Et donc, ça nous permet que si, par exemple, on veut travailler passé nos 65 ans, mais on peut reporter la pension du Canada parce que vous savez quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné plus tôt, mais c'est qu'on peut se pénaliser avec la pension parce que si notre revenu, on prend les revenus 2020, dépasse 79 000, bien, il va y avoir une récupération de notre pension du Canada. Donc, si on dépasse ces montants-là, tranquillement, on vient rechercher ce qu'on nous a payé. Ça, c'est pénalisant.
Donc, quelqu'un qui est très, très actif, encore à 65 ans, qui travaille à temps plein, il a vraiment intérêt à reporter. Est-ce qu'à ce moment-là, il va le recevoir, je ne vais pas dire en double, mais c'est un peu une manière d'épargner?
Oui, parce que c'est extraordinaire. Chaque mois qu'on reporte à 65 ans, là, on est bonifié de 0,6%. Ça veut dire que si on reporte d'une année, mm-hmm. on pourrait bonifier notre pension de 7,2%. C'est extraordinaire. Oui. Et on a le droit de reporter comme ça pendant 5 ans, donc jusqu'à 70 ans. Donc, quelqu'un qui est encore actif ou encore, je vous donne des exemples, des fois, par exemple, vous allez avoir 65 ans et là, par exemple, vos parents décèdent, il y a un héritage, des choses comme ça, mais il peut y avoir des années qui peuvent être pénalisante, si on veut, fiscalement, parce que les revenus sont plus grands, bien, à ce moment-là, planifiez-le, reportez, vous allez bonifier votre retraite. Donc, c'est très intéressant. C'est possible au niveau de la pension du Canada. Mm-hmm. C'est possible aussi au niveau de la pension de la RRQ. Et puis, c'est très avantageux là, pour les deux. Donc, on est bonifié pour chaque mois reporté.
Puis qu'est-ce qui arrive, justement, vous avez parlé d'un peu de testament. Si on reçoit un héritage durant ce temps-là, quel va être l'impact sur notre stratégie fiscale?
Bien, c'est qu'en fait, au Québec, quand c'est la personne décédée qui va payer ses propres impôts, donc on va recevoir les montants nets. Par contre, si je vous donne un exemple, si je reçois 300 000 et que je l'investis et qu'il n'est pas dans un abri fiscal comme le REER ou le CELI, qu'il est dans un compte qu'on appelle non enregistré, bien, à chaque fois que ce compte-là va avoir des gains, je vais être imposé l'année même où j'ai les gains. Donc, il faut faire attention. Il y a quand même des choses qu'on doit regarder pour éviter, évidemment, la récupération de certaines de nos pensions ou d'avoir un taux d'imposition qui devient plus raisonnable.
Est-ce que à ce moment-là, certains parents plus âgés, j'ai vu dans mon entourage des gens qui avaient transféré un immeuble ou une résidence secondaire plutôt que d'attendre pour faire un héritage. Quels sont les avantages et inconvénients autant pour la personne qui cède que pour la personne qui reçoit cet héritage-là du vivant de son parent?
Oui, ça c'est un sujet très intéressant, mais assez compliqué. Donc, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, c'est important de consulter un spécialiste. Mm-hmm. Et un spécialiste, c'est qui? Ça peut être un comptable, un planificateur financier, un notaire, fiscaliste. Donc, vous devez poser la question, qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce que c'est faisable? Puis, est-ce qu'il y a des impacts potentiellement négatifs? Donc, il y a plusieurs choses en place. Notre résidence principale, on a ce qu'on appelle l'exonération du gain sur la résidence principale. Ce qui veut dire que si, par exemple, j'achète ma maison 100 000 et que je la revends...
100 000, je ne sais pas où vous achetez ça. Ces temps-ci.
Je suis modeste. Donc, j'achète ma maison 100 000, je la revends 10 ans plus tard 250. J'ai un gain de 150 000.
Ouais.
Quand c'est notre résidence principale, on n'a pas d'impôt à payer sur ce gain-là. Tout va bien. Quand on parle de résidence secondaire, ce n'est pas vrai. Donc, on va devoir payer de l'impôt sur le gain qu'on a fait. Même chose pour les immeubles locatifs, les terrains, etc. Donc, si par exemple, moi, je vieillis et j'ai le goût de léguer ma maison à mon fils. Donc, je peux faire ce qu'on appelle un don d'équité. Je pourrais dire à mon garçon, ma maison vaut 250, je te la laisse, mais je pourrais lui dire, par exemple, je te la vends à 250 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de la vendre à 250 000, là, on va avoir plein de problèmes. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors, il aurait fallu que je fasse, par exemple, un don de 50 000, une lettre de don de 50 000 à mon garçon, puis lui, ensuite, doit me la racheter pour 200 000. Donc, dans les faits, la maison a été vendue pour 250 000. C'est ce qu'on appelle un don d'équité. Les banques sont accoutumées à ce genre de transaction-là. Il y a certaines règles à respecter, c'est-à-dire que, et de un, la vente doit vraiment être faite sur la réelle valeur marchande. Donc, on ne peut pas décider du jour au lendemain que ma maison en vaut 600 pour gonfler le tout. Ça doit être fait avec des membres de la famille. Bon, il doit avoir une lettre en bonne et due forme de don. Il y a certains critères à respecter. Ça peut être fait. Pour le chalet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je n'ai pas le droit de vendre. Mon chalet vaut, par exemple, 250. Je l'ai acheté 100 000. Je ne peux pas décider de le vendre 100 000 à mon enfant parce que je ne veux pas payer d'impôt sur le gain. C'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir des problèmes. Et en fait, ça va être très pénalisant parce qu'on peut même se retrouver dans ce qu'on appelle de la double imposition.
Caroline, vous avez raison que tout ça est bien complexe. Alors, on va suggérer à nos auditeurs qui sont dans ce type de situation-là de consulter un planificateur financier et de faire de même là, pour la saison des impôts pour être sûr là, qu'on est gagnant dans toutes les situations et en profiter là, pour prendre de bonnes décisions financières. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous au fil du temps.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Les enfants sont partis de la maison. Maintenant, vous trouvez les soirs bien longs. Assis tous deux face à face, chaque chose est à sa place, et pourtant rien ne semble comme avant. Dans ces murs, ces vieux murs où l'on entend siffler le temps qui passe. Maintenant, à quoi sert ce grand salon? Vous allez bientôt vendre la maison pour prendre un appartement plutôt petit que trop grand. Désormais, à Noël, au jour de l'an, vous irez tour à tour chez les enfants fêter le temps qui passe.
C'était « Berceuse pour mon père et ma mère », une chanson que je ne connaissais pas, que m'a fait découvrir Catherine Bourderon à la recherche. Merci beaucoup. Chantée par la grande Renée Claude, des paroles de Luc Plamondon et de G. Boivin. J'ai envie de vous parler de la sagesse. À quel moment on sait qu'on est sage? Comment on peut expliquer quelqu'un qui est sage et qui ne l'est pas? Bien, il y a des chercheurs en psychologie qui se sont penchés sur le sujet et ils ont découvert 5 dimensions principales pour expliquer ce qu'est la sagesse. Donc, premièrement, vous allez trouver ça évident d'avoir eu des expériences riches et variées, parce que comment être sage si on n'a jamais rien vécu? Donc, des expériences qui nous ont permis de résoudre des choix difficiles, des décisions qui concernent des transitions de vie, qui nous exposent aux mauvaises influences, aux mauvais côtés de la vie. Donc, un peu là, des expériences riches et variées nous permettent d'avoir vu les deux côtés de la médaille souvent et d'être capable de bien conseiller quelqu'un. Deuxième composante de la sagesse, la régulation émotionnelle. Donc, ce que ça veut dire, être capable de gérer ses émotions. Donc, d'avoir une acceptation, une ouverture au côté positif et au côté négatif, de pouvoir construire sans cesse une nouvelle version dans notre tête et donc de réussir à gérer notre petit volcan émotionnel. Troisième composante de la sagesse, la réminiscence et la réflexivité. Et ça, c'est des longs mots au Scrabble, hein? Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est d'être capable d'analyser le passé et le présent. D'être capable d'avoir ce regard-là sur ce qui s'est passé dans le passé et d'en tirer des conclusions pour le présent. Donc, comprendre les points forts, comprendre les points faibles, voir à travers tout ça quels problèmes on a réussi à résoudre, s'être adapté aux difficultés, d'avoir développé une plus grande perspective sur tout ce qu'on avait vécu. Quatrième point, l'ouverture. Donc, l'ouverture aux idées nouvelles, aux informations nouvelles, aux solutions potentielles et alternatives. Et le cinquième point, moi, je l'adore, celle-là, et je pense que ça fait de moi en partie une personne sage, c'est l'humour. L'humour, tu sais, quand on se dit « vaut mieux en rire », ça nous rend plus sages parce que ça nous aide à relativiser. Et les travaux de ces chercheurs-là soulignent que les gens qui font preuve de beaucoup d'humour sont des gens souvent plus sages. Et même, on voit même que les gens qui ont des types d'humour qui vont vers l'ironie, l'humour noir, même, ça aide beaucoup à diminuer le stress. Parlant d'humour, si vous avez envie de voir une série sur les sages, en fait, les vieux sages, c'est une petite série sur Urbania. Ce sont des vidéos où on a interviewé des gens âgés sur toutes sortes de sujets. Et c'est vraiment intéressant de les consulter là, sur tous ces aspects-là, de savoir ce qu'ils pensent de différents aspects de la vie. Donc, c'est les vieux sages sur Urbania. Je vous offre maintenant une chanson de Louise Forestier. Je pense que c'est le temps. Et puis, c'est une, justement, parlant d'ouverture à la nouveauté, c'est une nouvelle version de « Je pense que c'est le temps ».
J'irai voir
C'était la nouvelle version que Louise Forestier a réenregistrée de « Je pense que c'est le temps ». Alors, je pense que c'est le temps de se dire au revoir, chers auditeurs. Merci à Valérie Harvey. Son livre s'appelle « Révolution Papa » aux éditions Québec-Amérique. Caroline Lalande, Mosaïque, cabinet de services financiers. Je débute d'ailleurs mes impôts ce week-end. Merci à toute l'équipe, Catherine Bourderon, Louis Garon, Maurice Bolduc. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs.